Bien, donc vous n'êtes pas sans savoir que nous abordons la troisième partie de cet atelier consacré à la céramique. Je vous rappelle, parce que c'est vieux tout ça, c'est d'avant les vacances, hein, que nous avions déjà consacré un premier acte en débroussaillant un peu les grandes techniques de la céramique et en regardant un petit peu ce qu'il en était au niveau des formes des pièces céramiques. Dans un deuxième temps, la fois précédente, nous avons regardé la céramique européenne, j'allais presque dire primitive. Et quand je dis céramique, c'est essentiellement de la plâtrie, si je veux dire, c'est-à-dire des éléments en céramique, certes, mais utilisés pour l'alimentation, voire pour le décor. Et nous avions regardé en particulier les questions touchant autour des majoliques italiennes et à des céramiques autres qu'italiennes, mais entre guillemets primitives. Et avec ce troisième acte et l'acte suivant, nous allons essayer d'aborder quelques grands centres céramiques européens et français, parce que décidément, cette matière qu'est la céramique est tellement énorme qu'il est difficile de tout voir. Hein. Je vous l'ai dit d'ailleurs, on abordera essentiellement la céramique occidentale. On ne pourra pas tout voir, mais on va essayer en tout cas de débroussailler. Et je pense qu'il est important de commencer peut-être par les centres les plus importants, d'essayer de mieux les cerner, ce qui permettra peut-être après de mieux envisager des centres plus, entre guillemets, secondaires. Alors aujourd'hui, comme la fois prochaine, c'est donc à des poids lourds de la production céramique française et européenne que nous allons nous intéresser. Comme d'habitude, nous ouvrons, enfin quelquefois c'est les cartons à dessin de vos grands-mères, cette fois c'est le buffet de votre grand-mère, et nous y voyons tout un fatras de céramiques diverses et variées qu'il va falloir un peu mettre dans l'ordre pour s'y retrouver un peu. Alors commençons par tirer, ben, par exemple, un plat. Et voilà. Donc vous allez me dire tout.
Ah. Tout, tout. Très décoré.
Oui. C'est un bon début.
Une couleur.
Oui, monochrome.
Oui.
Bleu. Alors vous avez dit très décoré, mais si vous aviez à caractériser le décor, vous diriez quoi ?
Géométrique.
Oui, géométrique.
Symétrique autour et avec un centre.
Oui, alors effectivement, autour quelque chose de, entre guillemets, géométrique, et au centre, un écusson ou des écussons, des blasons. Oui.
Très décoratif, le tour.
Oui, oui.
Une couronne aussi.
Oui, effectivement, des blasons couronnés. Parfait. Si vous aviez quand même à caractériser le décor, vous avez dit très géométrique. Moi, si je ne gratte pas la diapo, et qu'on me dit un décor géométrique, je vois un cercle, des carrés, et puis voilà. Est-ce que c'est vraiment ça ?
Non, c'est arabesque un peu.
Oui.
Mais le dessin va de l'aile et se prolonge vers l'intérieur. Il n'y a pas de séparation entre les deux parties.
Oui, oui, oui.
C'est vrai.
Donc c'est forcément décoratif.
Oui. D'ailleurs, vous voyez que le marli n'est pas très prononcé. Voilà. On devine là à droite, ici beaucoup moins. Oui.
Ce sont des fioritures.
Comment est-ce qu'on pourrait appeler caractériser ou appeler ces décors ? Au centre, vous avez bien dit, hein, blason couronné, ok. Mais tout autour, là.
Comment est-ce qu'on. Des fioritures.
Oui.
Chinoiserie.
Non. Encore grotesque.
Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au grotesque qu'on a vu la dernière fois. Voilà, mais pas tout à fait, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est à mettre un peu dans cette lignée-là. Hein. Vous rappelez, grotesque, vous rappelez, on avait même évoqué pourquoi on les appelait grotesques la dernière fois. Hein. Effectivement, ce que vous avez là, c'est un peu dans la lignée des grotesques. On pourrait peut-être penser qu'il s'agit là d'éléments qui ont pu être créés, j'ai dit, un peu dans la perspective des grotesques. En fait, on appelle ça des lambrequins. genre de présentation.
Ah bon ?
Voilà. Et justement, c'est l'embrequin qui orne tout ça. Ils sont, vous voyez, organisés de manière complètement répétitive, hein, alternée, quoi.
Oui, alternée, oui.
Voilà. De temps en temps, il y a des petits éléments figurés. Vous voyez des petits dauphins qui s'invitent à l'intérieur de ces décors, effectivement, très post-grotesques, en quelque sorte. Hein.
Partout des coquilles.
Pardon ?
Des coquilles.
Oui, absolument, des coquilles aussi. Ouais. Bien. Tout ça a été peint à la main. Comme tu dis. C'est quand même... voilà, faut quand même se le rappeler. Hein. Parce qu'aujourd'hui, nous déjeunons, nous dînons dans des assiettes peut-être du même genre, mais dont les décors sont des décalcomanies. Hein, c'est fait absolument industriellement, avec, en gros, aucune intervention humaine. Là, c'est un travail entièrement fait à la main. C'est ce que vous voyez là, a été décoré l'embrequin par l'embrequin, quand même. Hein. Donc vous voyez qu'il y a là une science très grande. Comment est-ce qu'on pouvait faire, d'ailleurs, ça ?
Mais c'était préparé par des... On piquait, je ne trouve plus le nom de... Le décor est préparé, et on fait des trous d'aiguilles,
absolument.
Et on fait passer un colorant.
Absolument.
Comme on fait dans certaines broderies, exactement la même chose.
La même chose. C'est-à-dire que, évidemment, pour faire ce genre de choses, parce que, mettez-vous à la place d'un peintre ou d'une peintre, d'ailleurs, hein, même expérimenté pour faire ça, il ne faut quand même pas trop se rater, si vous voulez. Hein. Et en particulier, on peut être très doué pour faire ce genre de choses, mais enfin, il ne faut pas aller trop loin, trop à droite, trop à gauche, pour moins des repères.
Il faut que ça se raccorde aussi.
Effectivement, pardon ?
Il faut que ça se raccorde aussi.
Aussi. Donc, c'est compliqué. Donc, il y avait effectivement la possibilité de faire des repérages en posant sur la pièce que l'on allait peindre une sorte d'éléments en papier, si vous voulez, troués, avec le dessin qui était réalisé en trous sur lequel, enfin, que l'on aspergeait d'une sorte de poudre sombre. Évidemment, la poudre passant par les trous faits sur le dessin permettait de le décalquer sur la pièce qui permettait ensuite de la peindre avec, j'allais dire, un repérage. Et voilà ce que ça donnait. Alors, c'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire, mais on est là devant des pièces d'une extraordinaire dextérité, quand même. Hein.
Il fallait que le papier soit calculé singulièrement avant.
Bien sûr. Alors, évidemment, ce genre de pièces, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à... Il y a quelqu'un, peut-être ? Oui. Entrez.
Excuse-moi.
Pas de problème. On vient juste de commencer. Hein. N'ayez crainte. Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre sur cette pièce ? Je pense par exemple, on a dit qu'il s'agissait effectivement d'une pièce peinte à la main, mais est-ce qu'il y a d'autres remarques qui seraient à faire par rapport à, j'allais dire, l'unicité de cette pièce ? Qu'est-ce que j'allais dire aussi au niveau de sa date, par exemple ?
17e.
Ok.
Oui.
De blason, 18. Pardon, vous disiez de blason.
C'est pas un mariage
ou... En tout cas, on a une conjointe. Alors, oui. Précisément, j'avoue que je n'ai pas regardé, je veux dire, j'aurais dû. En tout cas, il y a la conjonction, visiblement, de deux lignées. Hein, effectivement. Ah, c'est un mariage, et tout ça. Bon, en tout cas, il y a deux lignées qui se rassemblent, vous avez raison. Hein. Ok. Donc, au niveau de la période, vous disiez 17 ou 18e siècle, il y avait un peu les deux sons, non pas de cloche, mais les deux sons de pas cloche. Au niveau de l'unicité de cette pièce, quand elle a été réalisée à la main avec le système de repérage dont on a parlé, mais je sais pas, vous auriez d'autres idées par rapport à ça ?
C'était une commande ?
C'est très vraisemblablement une commande.
Mais cette assiette fait partie
pas
d'une
collection.
Alors voilà, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une chose comme ça n'est sans doute pas un élément
isolé.
Unique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer voilà, qu'il y a derrière ça une commande. Et voilà, elle peut être commande, en tout cas d'un ensemble de pièces. Mm-hmm. Donc il est à penser, j'en ai pas la preuve actuelle, hein, mais que genre de pièces étaient faites en plusieurs exemplaires. Ce qui veut dire d'ailleurs que le poncif. Hein, c'est comme ça qu'on appelle hein, l'élément papier troué dont je vous parlais tout à l'heure, pouvait être utilisé pour d'autres pièces de la même série. Une idée d'un lieu qui aurait généré ce genre de pièces ?
Un peu Moustier.
Un peu Moustier. Moustier, vous pouvez nous le situer, enfin chacun...
Provence.
Voilà, Provence.
Oui, dans Alpes de Haute-Provence.
Alpes de Haute-Provence, bien. Donc peut-être Moustier, 17-18.
Mais Rouen aussi, parfois.
Rouen, peut-être aussi. Donc vous hésitez entre Rouen et Moustier.
Oui, je parie.
Ok.
Parce que c'est un bleu Rouen aussi.
Un bleu Rouen. Donc Rouen ou Moustier, Moustier ou Rouen, 17 ou 18e. Bon, ok. Allez, on continue.
Là, c'est français.
Français, ouais.
Oui, c'est écrit en français.
Déjà écrit en français.
C'est même daté, hein, c'est pas du jeu. 800, je vous marque le travail, vous suivez après.
On a même l'auteur, non? André Cholan. Oui, Cholan.
Alors,
oui,
c'est 806. Ou l'auteur ou la le destinataire.
Effectivement, oui. C'est l'un ou l'autre.
Qu'est-ce qu'il faut?
Bon, en tout cas, la date, ça, il n'y a pas de problème. Hein.
Oui.
Qu'est-ce que vous y voyez, en tout cas?
Charmante
Isabelle. Un arbre.
Un arbre.
Pardon? Un arbre d'amour.
Un arbre d'amour. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un arbre d'amour?
C'est écrit au-dessus.
C'est écrit au-dessus. J'avais oublié que vous sachiez, que vous saviez lire. Vous saviez lire. J'aurais dû m'en souvenir. Mais au-delà de ce qui est marqué, s'il n'y avait pas marqué un arbre d'amour, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un arbre d'amour?
Il y a un ange.
Il y a un ange en haut.
Un ange, c'est un ange.
C'est un cupidon.
Voilà, c'est un cupidon. C'est donc l'amour.
Oui.
Ouais.
C'est ça.
Donc on a effectivement.
C'est les femmes qui coupent l'arbre pour récupérer les mecs.
Exactement. Exactement. On voit effectivement des hommes dans un arbre et les femmes sont en train de couper l'arbre pour récupérer ces messieurs. Et vous voyez tout en haut. Effectivement, Cupidon, vous le reconnaissez à quoi? Oui, voilà. Il a effectivement un arc dans sa main droite et une flèche dans la main gauche.
Et puis il a des ailes.
Donc effectivement, on a là un arbre d'amour. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette pièce, au-delà de cette iconographie savoureuse?
Enfin, il y a plus d'hommes que de femmes.
Oui. Ah, peut-être, je n'ai pas compté.
Il y en a plus.
Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez raison. Je n'avais pas compté. Oui.
Donc, elles ont plus le choix.
Ouais.
Courage, Margot, un bec du morceau.
C'est du petit feu. C'est plus creux.
Petit feu, vous verriez plutôt.
Oh non, c'est pas assez nuancé.
Pas assez nuancé, donc ce serait un grand feu.
Un grand feu, oui. Non, okay. Pas je pense.
Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs?
Et quel est le... Ferrand, quel est... Bon, on a vu quelle était l'iconographie, quel était le sujet, mais prenez comme élément de comparaison la pièce qu'on a vue antérieurement. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à... je ne sais pas, si vous vouliez... C'est une comparaison entre l'un et l'autre. Alors, c'est pas le même type de pièce. Hein, là, c'est une sorte de jatte, ok, hein.
C'est plutôt usé.
Pardon.
Elle raconte
plus grossier entre guillemets.
Plus populaire.
Oui, plus populaire. Plus populaire, effectivement. Donc on avait là avant une pièce savante, hein, en plus qui actait et visiblement un événement regroupant peut-être deux lignées, un mariage éventuel. Vous en parliez. Voilà. Là, effectivement, on a quelque chose qui est plus populaire, plus entre guillemets, hein, j'ai bien senti les guillemets dans ce que je dis, grossier. Hein. Ouais, une sorte de ritournelle populaire. Hein,
ouais, c'est voilà. Bon souvenir de Chalon-sur-Saône.
Oui, un peu ça, un peu genre d'idée. Voilà. Ok, donc on a là une céramique plus populaire, avec une sorte d'histoire qui est racontée, hein, sur le mode plus ou moins du conte, ou de la comptine plutôt. Hein. Ok.
Chacune présente.
C'était à la mode à la fin du 18e.
Oui.
Au temps de la Révolution aussi, et puis encore après.
Donc on est d'ailleurs bien là, oui, dans la temporalité que vous dites, puisqu'on est en 1806, hein, oui, et que, ben voilà, on est juste après la Révolution, on voit bien que ça surfe sur cette vague qui existait dès la fin du 18e. Est-ce que, alors, je ne vais pas vous demander la date, parce que, voilà, c'est clair, mais un lieu où ça a pu être fait?
Il y en a eu beaucoup à Nevers.
Nevers.
Mais.
Pardon.
Moustier. Non.
Moustier ressort encore. Hein.
Oh, non, je
sens. Non. Moustier, bon, Moustier, on verra tout à l'heure. Moustier, oui, allez-y. Plus près, c'est mieux. Bien. Allez, eh bien écoutez, on continue. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Voilà. L'objet d'une drôle de forme. Comment est-ce qu'on pourrait, pour commencer par la forme, qualifier cet objet-là? Rappelez-vous, vous êtes la première séance.
Oui, un vase,
non. Oui.
Non, un pot.
Mais le mot flacon existait.
Oui. Donc vase. Non, oui. Pot. Pot.
Non, on avait un autre nom.
Non,
une pièce, il avait dit.
C'est dans une pièce.
Oui.
Ouais.
Il avait donné un autre nom. Presque une carafe en fait, parce qu'on doit pouvoir le tenir par,
oui.
Par le centre, là, par le rétrécissement.
Uh-huh. Oui, ça peut faire penser à une bouteille aussi, hein, voilà. Une bouteille qui serait un peu étranglée. Et alors, bon, on verra comment on peut la qualifier peut-être. Qu'est-ce que vous diriez au niveau maintenant du décor qui se développe dessus?
Mythologique,
oui.
Un genre de centaure.
Oui, un centaure, effectivement.
Avec, avec une lyre.
Oui. C'est une lyre? Ah oui, une lyre là. Oui, pardon, parce qu'il y a autre chose.
Il y a un arc.
Il y a un arc.
Il y a un arc.
Ok.
Qui est suivi.
Il est suivi.
Par un jeune.
Par un petit jeune.
Qui tient un serpent.
Qui tient. Alors, c'est vrai. Alors, un serpent, dans quel sens du terme? Voilà,
oui.
Ah oui. Parce qu'il y a un instrument qui s'appelle le serpent qui a une tête de serpent. Oui. Et là, c'est effectivement un serpent, mais un instrument de musique. Alors, cette pièce qui présente effectivement des figures mythologiques, un centaure. Ici, alors, vous ne voyez pas très bien, mais il a les jambes qui se terminent avec des espèces d'algues.
D'algues, oui.
C'est sans doute une sorte de triton, vous savez, on en a vu la fois dernière.
Il a une espèce de queue.
Oui, oui, oui.
Ah non, il n'a pas une queue, il a
un paysage.
Il a une.
Et dans la partie supérieure.
Genre d'étole qui vole.
Alors, vous parlez de ça?
Oui.
Ah oui, ça c'est une étole, effectivement.
Ah, c'est une
étole. Oui, c'est pas là. C'est pas une queue. C'est l'étole qui est là qui continue.
Ça reclame sur le.
Non, je pensais que vous parliez de.
Ah oui, ça.
Ok.
C'est un paysage.
Cette céramique que vous voyez là, est-ce qu'elle vous rappellerait des choses que nous aurions vues?
Oui, on a vu des personnages avec des algues, justement.
Ouais, oui, on l'a vu.
Oui, on l'a vu, ouais. Ouais, pas mal.
Et dans quel contexte? Sur quel type d'objet?
Alors, c'était quoi?
Bah, c'était sur une sorte d'assiette où il y avait
assiette.
Oui.
Sur une assiette où il y avait ce personnage un peu...
Oui. Mais une assiette faite de tout, faite quand, faite par qui?
C'était une italienne, non?
Oui,
c'était
italienne.
Oui.
Donc, on aurait là quelque chose qui nous rappelle ça,
qui s'apparente.
Au niveau de l'iconographie.
Au niveau de
des couleurs.
Pardon,
aussi,
des couleurs.
Les couleurs, les couleurs.
Les deux, iconographie et couleurs.
Ouais.
Ok. Et cette pièce que vous avez là, alors vous la dateriez de quand? Vous la mettriez où en termes de production?
17e.
Et
alors là, il faut se souvenir de tous les noms.
Une chose faite à Faenza,
ouais.
Au 17e.
Si on reste en Italie.
Ok. Bien, bah écoutez, on verra.
Ça ressemble à l'autre.
Ça ressemble à la première.
À la première.
Qu'est-ce que vous pouvez penser à la première?
Le mari
décoré,
qui déborde, et puis la pièce centrale aussi.
Oui, une pièce centrale, un mari décoré, il est effectivement deux couleurs, en deux. Oui, alors il y a effectivement du rouge.
Oui, il y a du rouge. Hein.
Du rouge, ou plus exactement, c'est un mauve. Parce que vous voyez qu'il y a du bleu, on est bien d'accord, hein.
Oui,
mais vous voyez du mauve.
Ah ouais.
Oui, alors ça, vous ne le devinez peut-être pas de loin, mais vous voyez cette couleur, vous voyez là, c'est du mauve, un mauve très pâle, ce qu'on appelle du manganèse, qui est obtenu avec du manganèse. Hein. Un mauve très... De loin, là où je suis, on dirait du rouge. Mais de près, c'est vraiment un mauve.
On voit du marron,
Oui, du marron. Ben non, oui, ben non. C'est un mauve très très pâle qu'on obtient donc avec du manganèse. Voilà. Ne me demandez pas comment, là je serai un peu court. Et puis alors au centre, vous avez une autre matière qui entoure un petit groupe. Qu'est-ce que vous voyez là représenté ?
Des poutis.
Bon, qui dansouillent plus ou moins. Qu'est-ce que c'est par contre
c'est
cette autre. Pardon ?
C'est pas des filles.
On voit rien.
Non, c'est plutôt des garçons. Hein.
On voit rien.
Oui, non, c'est plutôt des garçons.
Les poutis, ils ont pas de sexe.
Ils en ont. Des petits, mais il y en a.
La tête était féminine, vous avez un peu des seins, non ?
Oh non, c'est.
Ils sont potelés,
non,
c'est les pectoraux.
C'est parce qu'ils sont potelés, voilà, c'est vrai.
C'est des bébés un peu potelés, simplement. Voilà. C'est des bébés, quoi.
On dirait que c'est
doré. Les petits sont en général un petit peu rondelés. Oui. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette.
Bronze dorée.
Oui, c'est ça, quelque chose qui est un peu, qui a un effet un peu de dorure sans en être tout à fait. C'est un peu brillant. Pardon ?
Ça fait métallique.
Oui, ça fait métallique. Est-ce qu'on n'a pas vu ça déjà aussi ?
Si, je vois.
Ouais.
Oui, mais.
Et c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? On avait vu ça effectivement une fois où. Pas, vous n'avez pas révisé pendant les vacances.
Si, on n'a pas révisé.
Ah, vous n'avez pas révisé ?
Non, on n'a pas révisé. On a fait que la cuisine.
Bah justement, avec des assiettes sous le nez.
Non,
pas comme ça.
Mais l'histoire de Stanley.
Au-dessus des enfants et au-dessous, ce n'est pas le même décor.
Oui.
Non,
oui,
c'est vrai.
Il y a deux décors différents.
Oui, il y a un décor différent ici et là. Ah, un peu comme ça, si c'était le sol et ça le mur.
Et l'autre, plus végétal.
En tout cas, alors on verra ce que c'est que cette matière tout à l'heure, mais ce que vous disiez, c'est que ça vous rappelle la première pièce que nous avons vue. Avec ces. Comment est-ce qu'on appelle déjà ces espèces de décors répétitifs ?
Des lambrequins.
Des lambrequins qui se répètent. Voilà. Bien. Donc, date.
17-18,
comme tout à l'heure.
Oui.
Bon. Ok. Et lieu. Tout à l'heure, vous disiez, vous hésitiez entre Moustier et Rouen.
Oui.
C'est-à-dire le sud et le nord.
Quand même. Là, c'est pas du Rouen. Ça, c'est pas du Rouen.
Plutôt Rouen.
Non.
Non,
mais il y a d'autres endroits. Puis ça, c'est France et Europe. Ça peut être aussi l'Allemagne ou l'Angleterre.
C'est peut-être allemand.
Ah, ouais, parce que c'est pas que français. Hein. Ça peut être. Moi, tout à l'heure.
Moi, je ne sais pas.
Non, c'était cette espèce de.
Russe.
Non, les
Eh bien, nous verrons. Oui, c'est assez drôle. Ah oui, j'ai toujours joué cette pièce truculente. Truculente.
Des pattes d'oiseaux.
Alors, effectivement, vous pourriez, à votre avis, cette chose, c'est quoi d'abord en termes de forme et d'utilisation ? Bon, parce que on s'est pas posé la question pour les plats ou autres assiettes qu'on a déjà vues, mais. Bon, c'est évident que c'est soit des pièces qu'on utilise en plâtrée, tout simplement, ou qui sont, on en avait parlé la fois dernière, hein, en exhibition sur des buffets, etc. Bien. Ça sert à quoi si
on
n'a
pas
sert.
La taille.
Ça, c'est gros. C'est un rafraîchissoir. Hein. C'est certainement un rafraîchissoir. C'est assez gros. Hein. C'est une pièce qui a cette taille-là. Ouais, c'est gros. Hein. C'est un truc. Ouais, c'est une pièce assez grosse.
Sujet mythologique, enfin.
Un sujet mythologique, effectivement, sur la vasque. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'identifier ou pas ?
Oh, ça doit pas être, c'est pas Bacchus qu'on est en train de faire boire, manger du raisin, là, celui qui est couché.
Ici ?
Ouais, non.
Peut-être pas. En tout cas, vous identifiez un thème un peu bachisant.
Oui.
Hein.
Oui.
Ok.
Oui.
Très bien. Là aussi, au niveau de décors, etc., qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à des choses qu'on aurait éventuellement déjà vues ?
Oui, on en a vu. Le pied est invraisemblable.
Le pied est invraisemblable.
Le pied
est invraisemblable. C'est une espèce
de
grosse patte de Shadok. Enfin, c'est très curieux. Entre parenthèses,
les
anses, c'est quelque chose aussi. Hein. Donc, il a effectivement un côté. Alors, invraisemblable, oui. C'est-à-dire, c'est très. C'est un peu étrange, quoi. Enfin,
mais c'est bien stable.
C'est bien. Ah oui, c'est stable. C'est stable. Oui, ça tient. Ça tient.
Ça tient.
Ça tient. Quelle est là aussi la volonté d'une pièce comme celle-là ?
Décorative.
Décorative.
Amusé aussi.
Il y a peut-être un côté amusement, parce que c'est un peu truculent. Je ne suis pas tout à fait certain qu'à l'époque où ça a été fait, pour les gens qui ça a été fait, ce soit la première idée. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, et je pense qu'à l'époque même, on pouvait trouver ça...
Le thème bachique, quand même, ça...
Oui, le thème bachique va finalement un peu avec. C'est mmh. Ouais, oui. Mais quel est le but aussi ? Parce que, genre de pièces, à votre avis, il y en a des milliers comme ça ?
Non.
C'est une pièce assez rare, on en connaît quelques exemplaires. Enfin, c'est un type de pièce vraiment rare. Hein. Et pourquoi ?
Ben, c'est compliqué à faire.
Parce que c'est compliqué à faire. Très compliqué à faire.
Ça montre la dextérité. Là.
Voilà, là on voit la dextérité aussi. Alors, certes, les anses sont moulées, etc. Mais enfin, c'est une grosse pièce. Faut la faire, faut la cuire, faut que ça marche. Pas évident, hein. Donc c'est une pièce compliquée. Hein. Oui, ils sont aussi fragiles, oui. Et le but, au-delà peut-être d'une dimension d'humour, c'est quoi ? Peut-être avant tout.
Utilitaire.
Alors utilitaire, ça sert effectivement à mettre des bouteilles à rafraîchir. D'ailleurs, on peut en mettre sans doute quelques-unes là.
Hein. L'important, c'est la personne.
Voilà, c'est ça. Il y a un côté démonstratif. Hein, voilà. Ouais. Hein. Je sais pas, on peut mettre ça à quel endroit ?
Sur un buffet.
Alors, milieu de table, oui.
Non, buffet, plutôt.
Alors, plutôt buffet, peut-être. Oui. Oui, voilà, c'est plus sur des desserts, voire par terre. Hein. Les rafraîchissoirs peuvent être par terre, alors pour qu'on shoote dedans, hein, mais par terre, dans des j'irais, compositions ou ce genre d'objet. Avec d'autres, hein. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer autour de ça pour un peu donner à voir ? Pardon ?
Des fleurs, des bouquets.
Des fleurs, oui, des bouquets, pourquoi pas ?
Des pyramides de fruits.
Oui, par exemple.
Des grands vases.
Des grands vases en quel matériau, par exemple ?
Des vases qui sont en céramique.
Porcelaine, peut-être, si du moins l'époque le permet, oui.
En
argent, voilà, on peut imaginer des choses en argent, qui éventuellement ont d'ailleurs des formes équivalentes. Hein. Imaginez deux bassins en argent de chaque côté de ça, ça va, hein, ça vous pose une salle à manger, vous comprenez ? Donc effectivement, il y a un côté démonstratif et un côté truculent des anses, des pieds, rentre évidemment sous le thé un peu « waouh hein, !» On est là dans une pièce qui en jette, comme on dirait. Hein. Voilà. Au niveau maintenant des... scène, du chromatisme, là aussi ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle des choses ou pas ?
Oui, ce qu'on a vu la dernière fois, effectivement, avec les motifs, les trucs rouges, là, en Italie.
Mm-hmm. Donc là aussi ça vous rappelle l'Italie ?
Oui. Mm-hmm. Oui.
Donc on serait dans une pièce italienne peut-être ?
Peut-être.
Et à quelle époque ?
16e.
Donc assez tôt en tout cas.
Oui, hein. Oui.
Assez tôt. Ok, bon.
Une chinoiserie.
En faïence.
Faïence.
Multicolore, enfin plusieurs couleurs.
Oui, polychrome. Grand feu, petit feu.
Je dirais bien grand feu.
Mmh. Grand feu. Donc faïence, deux grands feux polychrome. Ok. Décor de chinoiserie, très bien. Pourquoi ? C'est une pièce chinoise ?
Non, je ne crois pas. Non, c'est la mode.
C'est la mode des chinoiseries. Pourquoi ?
Parce que c'est le personnage, on voit qu'il est habillé pas du tout à l'occidental.
Ouais.
Les deux personnages sont...
Mais pourquoi c'est la mode des chinoiseries ?
Avec la
compagnie des Indes.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, la compagnie des Indes ?
Elle rapporte
Effectivement des œuvres de...
là-bas.
des Indes.
Mais sur commande, faites sur commande.
Souvent, faites-vous sur commande, pas uniquement, mais souvent, oui. La Compagnie des Indes a effectivement des manufactures qui travaillent pour elle et dont on ramène les productions en Europe.
Mais on a des contacts qu'avec la côte, qu'avec les... On ne pénètre pas.
Ouais, c'est souvent très superficiel. Ouais. Et dans quel pays ?
En Chine.
Chine. La Compagnie des Indes, elle concerne avant tout la Chine, contrairement à ce qu'on nous pourrait laisser.
C'est la porcelaine qu'elle ramène.
Elle ramène souvent la porcelaine. Or là, on a de la faïence.
Donc c'est une reproduction peut-être.
Voilà, ce qui fait qu'on aurait là quelque chose qui est plus ou moins inspiré de choses orientales, mais faites en Occident. Ok ?
En Hollande.
Hollande ?
La Compagnie des Indes orientales.
Donc on aurait là, par exemple... Quel centre en Hollande Delft.
Delft
et Fillon, un grand centre. Donc on aurait peut-être là une pièce de Delft figurant des scènes chinoises. Ok, très bien. Bah, on verra ce qu'il en est. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Hein.
Oui.
Mais bon, je pouvais, enfin, bref, j'aurais pu tourner la photo d'un quart, mais elle n'aurait toujours pas été dans le bon sens, donc j'ai décidé de laisser. Pardon ?
Elle est
ronde. De toute façon, oui. Ce qui compte là, c'est plus bon le décor, vous l'avez compris, hein, c'est un décor floral avec un petit oiseau. Bon, l'oiseau devait être en haut, là il se trouve en bas à gauche, voilà, c'est pas.
Qu'est-ce que c'est que ce trait blanc qui est mal fait là autour?
Ben c'est du décor. Ça fait penser aux poteries alsaciennes.
Oui.
Donc on est quelque chose qui fait penser aux poteries alsaciennes.
Oui.
Donc ces choses un peu germaniques, un peu.
Et puis le fond toujours sombre, souvent sombre.
Oui, d'abord c'est sombre.
On imagine le Bavarois en culotte de cuir en train de faire bing avec leur chope. On a fait de la bière à Munich. Sauf que là c'est pas une chope.
Le fond sombre. On n'est pas habitué jusqu'à maintenant.
Oui. Là, c'est étrange. C'est une production très spéciale, ça. Hein. Un fond sombre. Donc, un fond sombre qui vous fait penser à des productions germaniques.
Germaniques, oui.
Hein, peut-être allemandes. Uniquement.
Oui, c'est possible.
Un peu grossier. Et vous parliez, en effet, de ce trait blanc autour qui est... Oui, en fait, c'est d'ailleurs bizarre, parce que autant au centre...
Oui.
C'est pas mal, quoi.
Travaillé.
Autant ce. Voilà. Oui, ça c'est curieux. On est à quelle époque, là ?
Il y a des tulipes.
Aïe, aïe, aïe.
Tulipes, œillets.
Des tulipes.
Il y a des tulipes. Donc, déjà, c'est un terminus. On était quoi ?
Les œillets, c'est pas. 18-19.
Donc, peut-être hollandais, 18-19. Bon.
C'est germanique.
Germanique.
Il y a l'autre, il y a l'Alsace, il y a la Allemagne.
Les tulipes.
Et la Hollande.
Bon, la Hollande, elle est ouverte. Hein.
Ah, on retrouve à nouveau des
chinoiseries.
À nouveau une chinoiserie.
Faïence.
Une faïence.
Bicolore.
Oui. Alors, c'est toujours un décor de grand feu. Monochrome, hein, un décor de grand feu. Vous revoyez là ce contraste entre ces zones un peu gris-mauve, hein, clair, qui sont du manganèse, hein, et le décor bleu. Hein. C'est une conjonction qu'on a souvent, décidément. Hein. Bien. Et là, ce genre de pièce, à votre avis, à quoi ça sert, ça ? À quoi ça peut servir ?
C'est grand,
pardon.
C'est grand,
ça fait à peu près cette taille-là.
C'est
une forme de torse.
Oui, des anses torses, oui.
Oui, c'est encore un rafraîchissoir.
Oui, ça fait penser à un rafraîchissoir. Alors, en même temps, vous remarquez le côté, sans doute, un peu... C'est un peu épais, hein, un peu gros. Ça peut avoir aussi une autre fonction. Oui, voilà. Pour effectivement ces choses qu'on voit éventuellement sortir, enfin, ou que j'avais à l'intérieur pour des petits arbres, ou que je ne sais encore. Hein. Une date, un lieu.
À la même époque que l'autre chinoiserie.
celle avec la petite construction, là, les personnages. Et la même fabrique. Je repasse la même.
C'est la moins fin, ça. L'autre,
ça, c'est moins fin. Oui. Ouais, vous vous rappelez de l'autre avec les petits personnages sur l'architecture impériale.
Là, ça s'est fait un peu, la pavite.
Les mêmes couleurs. Il y a les mêmes couleurs que dans une autre qu'on avait vue, là, justement, avec les violets et les bleus. Là.
Ouais, 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 ouais. Quelque chose d'un peu équivalent à ça, oui. Ok. Et, ok, mais c'est... On serait où, alors? Bon,
en Europe.
En Europe. Ok.
Là, c'est des carreaux.
Là, ce sont des carreaux. Ce sont des carreaux. La photo n'est pas extraordinaire. En plus, il y a une inscription en bas à droite. Ça m'énerve, mais bon.
Ah, ben voilà, il faut payer.
Il y a une frise.
Pardon.
Il y a une frise.
Oui, effectivement.
Des petits poutis tout autour.
On dirait que c'est ottoman.
C'est un côté ottoman, oui.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais. Ayons les personnages que vous voyez, hein, sont des personnages proches orientaux. Hein. Ouais. Je pense à des figures comme celle-là, par exemple, qui sont assez typiques. Hein, celle à droite, ou en haut à droite, ou lui aussi. Hein. Ouais. Oui. Donc on aurait une pièce ottomane ici?
Non. Plutôt Portugal ou Portugal.
Ah, Portugal. Ça vous avait fait penser aux Azulejos.
Les Azulejos, à cause du bleu, là.
Ça peut être italien aussi.
Oui. Moi, je pense plutôt italien.
Parce qu'à Naples, il y a le couvent machin, là.
Ou grec.
Bon. Dites plutôt ce que ça n'est pas.
C'est le sud. Là, on est dans le sud.
Le sud,
donc. On est dans le sud.
On est dans le sud. Bien. Donc on est au bord de la Méditerranée, quoi.
Voilà, oh, oui, c'est bien. Ça.
Avec des figures ottomanes.
Oui, parce qu'il y a des échanges avec...
Pardon ?
Au bord de la Méditerranée, si c'est
oui. Oui, 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 il y a effectivement des... Ouais. Des choses à visiter.
Au bord de l'eau.
Oui, c'est ça. Parce que si c'est le Portugal, c'est pas au bord de la Méditerranée. Hein.
Non.
Oui, mais c'est au bord de l'eau.
C'est vrai. On dit toujours que c'est un pays méditerranéen, mais c'est un pays atlantique. Bien, donc voilà une pièce soit ottomane, donc vraiment est de la Méditerranée, soit au contraire de l'Europe du Sud, on va dire, hein, mais inspirée de décors orientaux, orientalisants, ok, des carreaux. Tout n'est pas orientalisant, cela dit. Hein.
Non, parce que
la frise de petit, c'est pas vraiment orienté.
Là, ouais. Non. La céramique centrale, là-haut. Elle...
Ces carreaux, ils sont utilisés pour quoi? Ça peut être pour les murs, oui, uniquement.
Les tables.
Table, éventuellement, pourquoi pas.
Un sol.
Sol, pourquoi pas.
Sol, ça serait dommage.
Ah, quand on a les moyens. Ok, bien. Eh bien, on passe à autre chose.
Un plat de présentation.
Un plat.
Une corne d'abondance.
Une corne d'abondance et même deux. Deux cornes d'abondance. D'où sortent force, choses en abondance.
La biodiversité.
Oui. Oui, il y a plein de petits papillons et autres insectes.
Oiseaux.
Oui. T'inspirais de quoi ce genre de décor-là? De quoi c'est inspiré, mais ça ne vous inspire pas.
Non, c'est bucolique, mais à part ça.
Oui.
Non, mais c'est parce que je pense qu'on n'a pas bien compris la question.
De quoi c'est inspiré?
Ah, de la mythologie, les cornes d'abondance.
Oui. Ah, pour les cornes d'abondance, oui.
Et la nature.
La nature, oui. Ouais.
De Buffon.
Buffon. Linné, peut-être.
Non. Non, c'est plutôt. Moi, ça me fait penser aux jardins médiévaux.
Ah.
Aux enluminures médiévales.
Ouais. Ok. Alors là, même question traditionnelle. Hein. Est-ce que ça vous rappelle des choses qu'on a déjà vues? Est-ce que vous avez une idée d'une époque?
Les marrons, oui.
Les marrons. La couleur marron.
Ouais.
Ouais. Allez, 18e. Et c'est fait où ça?
Nevers.
Ah, Rouen. Rouen, Nevers. Gien. Rouen, Nevers, Gien.
Oui, c'est vrai, je pense que
oui.
C'est bon. Bien.
Ça sera de l'arbre, là.
Ça fait penser à la jade qu'on a vue tout à l'heure. C'est avec l'arbre. Ok. D'accord, donc oui, on pourrait dire Saint-Sallier, c'est une jatte. Hein, parce que, après, on peut faire ce qu'on veut. Hein, ok, jatte, très bien. Qu'est-ce qui vous rappelle? Voilà, c'est un décor populaire. C'est ça, peut-être, qui vous fait rappeler l'arbre tout à l'heure. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez là?
Une expédition maritime.
Une expédition maritime.
Oui, avec plein de bateaux.
C'est Jean V qui va mourir.
Il y a sa mère.
Pardon.
Pourquoi il a des clés, c'est ça?
Oui, il y a un personnage avec des clés.
C'est un
saint.
C'est un saint. Ce sont des
saints. Les deux personnages sont des saints.
Ils ont des auréoles.
C'est quel saint?
Saint-Pierre.
Saint-Pierre, avec les clés, très bien.
Alors là, Jean,
en dessous, il y a marqué Jean Tessiel, j'ai l'impression, oui, Tessiel, comme ça.
1826, en 19.
Je pense que 1800, c'est plutôt 1886. Non, c'est plutôt 1806. Oui, grosso modo.
C'est la même époque que l'autre.
Grosso modo, il n'y a pas que l'autre, décidément, on est proche à tout niveau. Hein. Bon, mais vous m'avez parlé de Saint-Pierre, et d'accord. Et, hein. Et à gauche, alors
Saint-Jacques.
Hein, Saint-Jacques.
En Anse, quoi. On dirait qu'il
y a un animal derrière.
Ouais, il y a un animal derrière, lui.
Un cochon.
Donc
oui, mais il porte une bannière. Il porte
une bannière.
Puis le petit cochon.
Non, c'est plutôt Saint-Georges.
Non, Saint-Georges, il n'y a pas de dragon.
Non, il n'y a pas de dragon, mais il y a une bannière.
C'est un Saint-Explorateur.
Un saint explorateur.
Oui. Il y a les bateaux, il a dû faire des. C'est la gloire d'un saint.
Il y a un pont,
oui.
On tire au canon, là-haut.
On tire au canon. Non, c'est des arbres.
Non, si, il y a des personnages sur le pont.
Des personnages.
Oui, mais je ne vois pas de tir au canon.
Non,
c'est des arbres. De fumée.
C'est des arbres.
Ce sont des arbres, en fait.
J'aurais bien aimé que ce soit.
Ils sont un peu courbés parce que la jatte est ronde, mais c'est des arbres. Oui. Donc il y a un pont avec des personnages et deux arbres qui se courbent. Il y a effectivement de l'eau avec des tout dessus. Et au centre il y a Saint-Pierre et un saint pour lequel on hésite.
C'est sa bannière.
Antoine, à cause du cochon.
Oui,
mais Antoine.
Mais non,
c'est vrai que le cochon, ça fait penser à Antoine.
Oui, mais il
n'y
a pas de
voilà.
Bannière.
Oui, mais Antoine.
Et en général,
il y a
Antoine. C'est une bannière. Ça n'engage rien. Hein.
Non, puis il n'y a pas d'incense. Non, c'est pas ça. Non.
Pardon.
Il y a un pont avec des petits bonshommes dessus.
Oui.
Pardon. Qui ont l'air de tirer sur les bateaux.
Ah, on tirerait sur les bateaux. Ah oui, parce que vous voyez les personnages, effectivement, qui semblent avoir peut-être des fusils, des choses comme ça.
Non. En fait, il a traversé.
Il y a un octroi.
Il est parti.
Ah oui, Jean Tessiel.
Et à droite, vous dites qu'il y a quoi sur le pont?
Un octroi.
Oui. Une baraque qui fait penser à un octroi, effectivement. Alors là, c'est fait où? C'est fait quand? Alors quand? C'est bon? En France. Ça marche?
À Nevers.
À Nevers, comme l'arbre d'amour. Alors tout à l'heure, déjà, vous pensiez à ça.
Au même endroit que l'arbre d'amour.
Au même endroit que l'arbre d'amour, en tout cas.
Et à la même époque.
Oui. Bien. Eh bien, écoutez, on verra.
Monochrome.
Monochrome.
motif tient tout le plat ou l'assiette.
Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous voyez ?
Un chevalier
qui trucide un jeune homme.
Qui se bat avec un...
Ouais, une sorte de duel, effectivement.
Enfin, il n'est pas debout bien longtemps. Hein,
oui, il est transpercé par les traverses de corps.
Ouais. Oui, c'est... Hein ? On voit effectivement un chevalier qui est à terre, hein, qui est en train de transpercer un jeune homme de son épée. Ouais. Et puis le jeune homme, lui...
Il n'a qu'un bâton.
Il a un bâton. Ouais, un bâton particulier, peut-être ?
Est-ce qu'il y a une lance ?
Il ne lui met pas dans l'œil ?
Si, plus ou moins.
Hein, il met dans l'œil.
En tout cas, dans le visage.
C'est un duel à mort.
Donc c'est une sorte de duel, effectivement.
Il y a une petite scène à droite.
Oui.
Difficile à lire.
La gauche aussi.
Et puis au fond aussi, au fond, il y a une demoiselle qui part.
Ah oui.
Avec un yale de cheval.
Ouais.
Et une demoiselle qui part, qui on dirait qui s'enfuit.
Il y a quelqu'un à terre qui tient, qui lui retient sa jambe ou sa jupe, je ne sais pas.
Ou un pan de son manteau. Oui. C'est pas très bien. C'est un peu confus.
Ouais.
Cette histoire, alors, je pense que vous ne vous trouverez pas ce que c'est, parce que franchement, c'est un peu compliqué, mais c'est plutôt que de savoir exactement ce qui se passe, que je vous révélerai tout à l'heure, est-ce que vous pourriez dire simplement à quel répertoire ça appartient ?
Je verrais bien des histoires espagnoles.
Espagnoles, une chose de...
Et un conte espagnol.
Picaresque.
Un picaresque, oui. À cause du vêtement du chevalier.
Oui. Ah, une sorte de Don Quichotte.
Oui.
Pardon.
Le cheval, il fait bien tranquille.
On centre tout autour de lui, ça n'a pas l'air de lui poser problème. Hein. Ouais. Il est en train de paître. Alors là, c'est pareil, une date, un lieu.
18e, n'est-ce pas ?
Espagne 18. Allez, adjugé, vendu.
Ah oui, vous ne serez pas.
Des carreaux.
Encore
des carreaux, décidément.
Entouré d'une frise.
Oui, je vous en parle parce que, encore une fois, la céramique, c'est pas que de la plâtrie, hein, ou de la vaisselle, si vous voulez. Hein. C'est aussi la céramique architecturale. Alors, en soi, c'est tout un univers, hein, pas exploré, mais un peu quand même.
C'est le déluge.
Oh,
ça,
c'est le déluge. C'est le déluge.
Avec l'arche de Noé.
Il y a l'arche de Noé là-haut, et puis voilà. C'est après le déluge. Voilà, l'arche de Noé sur le mont Arara. Nous sommes après le déluge.
Oui, parce qu'on voit Dieu qui envoie la colombe avec le rameau de l'olivier.
Oui. Oui, il y a un peu plusieurs scènes en une. Hein. La colombe amène le rameau d'olivier alors que l'eau est déjà repartie. Hein. Découvrant tous les cadavres en cours de décomposition, comme vous le voyez ici. Hein. Bien. Alors là aussi, est-ce que ça vous... Alors ça peut vous rappeler les carreaux de pavement qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Enfin, ou les carreaux, sont-ils le pavement ? On a vu que c'était le pavement, pas le pavement d'ailleurs. Et là, pareil. Plutôt mur, alors.
Plutôt mural.
Ah ouais, c'est mural. Alors.
Mural.
Oui, mais par contre, au niveau du tableau, c'est très pictural parce que par rapport parfois à ce qu'on a vu, c'était un peu léger, c'était mal fait, c'est grossier. Là, c'est presque comme peint sur un tableau. C'est
Il y a vraiment une.
Il y a un gros travail. Hein.
Oui,
parce qu'il y a une continuité
entre chaque carreau. Hein. Oui. Donc là, on est devant un truc, assez virtuose.
Très virtuose.
Là aussi, ça vous dit une époque, ça vous dit un lieu, ça vous dit un artiste, qui sait. Pardon ?
Espagne.
Tout à l'heure, on parlait Portugal, là, plutôt Espagne. Ok ? Et on est quand ?
18e.
18e. Ok.
Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas, pourquoi ?
Il ressuscite les petits-enfants.
Parce qu'il y a des enfants. Il réussit les petits-enfants, voilà. Bon, j'ai mis du blanc, enfin, parce qu'il y a marqué Saint-Nicolas. J'ai mis un carré jaune quand même, en me disant, tentons le coup. Mais,
c'est un biscuit.
Ouais. Donc, Saint-Nicolas, très bien. Donc, une statuette. Okay. Le but, c'est quoi, ce genre de statuette ?
Mettre en décoration dans une église.
Dans une église.
Dans une église.
Oui, dans une petite niche.
Ça dépend de la taille.
Oui, ça dépend de la taille.
Ah, oui, c'est peut-être plutôt des dévotions privées.
Plutôt dévotions privées.
Oui.
Ah oui.
Oui, vous appelez Nicolas, vous achetez un Saint-Nicolas, on vous l'offre, et puis voilà. C'est une manière de faire vos propres dévotions. Très bien. Une date, un lieu.
Et si Saint-Nicolas, c'est peut-être l'est de la France.
À l'est de la France.
Ouais. Mmh. Si c'est Saint-Nicolas.
Allemagne.
Le pays germanique.
Et on est quand, là ? Assez récent. 19e. 19e.
À Nancy.
Nancy, 19e. Allons-y.
Ah, ça, c'est l'enlèvement d'Europe.
Ah, l'enlèvement d'Europe. Vous reconnaissez maintenant. Hein.
Oui.
Ça, c'est l'enlèvement d'Europe. Bon, puis il se passe des tas de choses tout autour.
Ouais. Là,
des
petits poutis sur des
cygnes. Oui, des poutis sur des cygnes.
Des bergers,
musiciens.
Bergers.
Papa Antès, ce genre de composition-là, à votre avis, ça vient d'où ? Ce que je veux dire par là, c'est le peintre. La peintre, parce qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans ces ateliers, qui a fait ça, se mettait devant son assiette et puis hop, composait ça.
Ça peut être une commande.
Pardon ? Alors, elle pouvait copier quelque chose, effectivement. Quoi ?
Peinture. Des gravures.
Gravures. Plus peinture, plus gravure.
Plus gravure.
Pourquoi ?
Parce qu'elles sont bon marché.
Elles sont bon marché.
Et puis, de toute façon, on est obligé d'adapter ses couleurs à la céramique.
Ah oui.
Donc, les couleurs de l'original ne la concernent pas tellement.
Eh oui. Effectivement, en général, enfin, très souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, ces décors, sur ces pièces un peu savantes, hein, reprennent des compositions copiées d'après des gravures, qui elles-mêmes copient des peintures.
Oui.
Hein. Mais évidemment, pour des céramistes qui sont dans les ateliers, acheter une peinture et leur copier, c'est compliqué. Hein. Par contre, acheter un recueil de gravures qui vaut évidemment beaucoup, beaucoup moins cher, ça, c'est pas un problème. En plus, dans un recueil de gravures, vous avez des tas de choses, vous pouvez vous adapter. Par exemple, on sait que la composition centrale a été faite d'après un modèle, alors que les deux figures de côté ont été faites d'après un autre modèle, et même deux modèles différents, vous voyez. Donc effectivement, l'intérêt des gravures, c'est qu'on en avait pas mal, et qu'on pouvait piocher à droite à gauche pour faire un patchwork, quel genre de composition. Là aussi, cette pièce, est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose au niveau de ce que vous y voyez, de ses couleurs, etc.
Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le centaure.
Ouais.
Oui. Avec ses couleurs bleues.
Oui. Oui,
jaune.
Oui, effectivement, tout à l'heure, avec le centaure, regardez le bleu du fond. Oui, hein. Je me rappelle beaucoup ce qu'on a vu tout à l'heure avec le centaure. Oui. Hein. OK. Bien, donc on aurait peut-être là une conjonction à imaginer. OK.
Chinois.
Le décor rappelle le plat avec les cornes d'abondance.
Ah, donc on aurait là quelque chose de proche du plat avec la corne d'abondance.
Oui,
qu'est-ce qui vous fait faire ce rapprochement ?
Les belles couleurs. La forme.
Le dragon.
La forme. Les animaux qui ont
la petite. Les petits animaux, tous ceux qui répertoient des petits moustiques, de petites mouches, etc. On les a vus, hein. C'est notre buffon liné de tout à l'heure.
Ouais.
Ok.
Je pense que c'est du moustier, là.
Moi, je pense Moustier. Que Moustier.
Ah, oui, là,
Moustier.
Même l'autre. Même d'ailleurs.
L'autre. Mais l'autre aussi.
Oui, Moustier, oui.
Et alors, ce décor, ce dragon, vous disiez, au milieu, c'est quoi, ça?
Oui, c'est un dragon.
C'est un dragon chinois? Non. Non.
C'est bizarre.
Qu'est-ce qui est bizarre?
Il a des cornes de cerf, il a
des pattes de coq.
Il est bizarre. Hein, ouais. C'est vraiment une chimère. Hein, c'est-à-dire un animal fait de tas de trucs de briques et broc. En plus, il a une drôle de position. Hein, parce qu'il est debout sur une patte, il y a l'autre patte derrière. Il y a deux autres pattes dans les deux sens. Il a une tête vraiment faite de tas de choses. Enfin, c'est vraiment un drôle de dragon. Hein. Enfin, c'en est vraiment un, d'ailleurs. Hein, parce que pour avoir une telle touche, il faut être vraiment un dragon. Hein. Un monstre. Ok. Et ce monstre, il est inspiré de quoi? Asiatique.
Non.
Donc, non. Non. Bon, bah, on verra. Un peu vénitien. Oui, le faciès, le masque. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, ouais, effectivement. Et pensez à ça. Donc, vous pencheriez un peu pour l'Italie plutôt que Moustier? Peut-être. On verra. Oui, ça, c'est quoi comme type d'objet? Ouais.
Non,
un vase, mais.
Non, c'est un autre nom.
Ouais, il y avait un autre nom. Je me fais penser à ça, mais il y avait un autre nom. Rappelez-vous la première séance.
Oui,
il
pas dit, non.
Flacon.
Non, non, c'est un nom.
Un autre nom.
Oui, oui. Oh, mais il y a trop longtemps.
Avec deux ou quatre balais. Il y a trop longtemps, ça se transmet. Moi, d'ailleurs.
À moi?
Oui, et puis. Événement. Bon, donc c'est une bouteille qui ne s'appelle pas bouteille. Et qu'est-ce qu'on y voit? Albarello?
Non,
c'est ça. Non, Albarello, c'est
ouais.
Comme un pot. Bon,
on a encore du Bacchus.
On a encore du
Bacchus. En tout cas, du Bacchus.
Il y a un centaure.
Un centaure?
Oui, c'est un cheval droit. Sa chèvre.
Il a des panneaux.
Un centaure sur la droite.
C'est?
Oui.
C'est quoi?
C'est un satyre.
À droite, effectivement, il y a un satyre.
C'est un satyre.
À droite, c'est un satyre.
Oui, celui du milieu, c'est Bacchus.
Et là, c'est Bacchus. On a un satyre et Bacchus.
Il a sa tête d'animal.
Pardon?
Deux têtes d'animal. Cornu.
De chaque côté.
Oui.
Ouais.
Des boucs.
Ouais.
Et Bacchus, il est à cheval sur un bouc.
Et Bacchus est à cheval sur une sorte de bouc qui a des drôles de cornes. Oui. Enfin, on n'en est pas à un détail. Alors là aussi, est-ce que ça vous rappelle des choses? Est-ce que ça résonne avec des trucs qu'on a vus?
Oui.
Le bleu. Toujours ce bleu. Hein.
Ah oui. Toujours hein. Ce bleu. Ce
qu'on a vu dans quoi?
Eh bien, dans les scènes.
Déjà, sur oui, voilà. Donc c'est un bleu qu'on a déjà vu. Hein. Bon. Donc on a quand même. Et le jaune aussi. Des choses qui se rassemblent visiblement. Hein.
Ça, on revient à la première assiette.
Oui.
Oui,
non.
Et le bleu est beaucoup plus sombre.
Oui, un bleu plus soutenu. Oui. Ouais. Il n'y a pas de rouge, c'est finalement monochrome, comme l'était le premier plat.
Oui, c'est vrai. Oui,
mais qui était plus clair.
Oui.
Il y a cette forme rayonnante,
oui.
Très différente.
Oui.
Avec un petit au centre,
un petit animal.
Bah oui, d'ailleurs, regardez.
On le voit à chaque fois, il est là.
Voilà, on le voit régulièrement. Hein. Et ça, donc, ce sont des...
Lambrequins.
Voilà. Donc, ça vous fait penser au premier plat qu'on a vu.
Oui.
Super.
C'est moins raffiné.
C'est beau, hein.
C'est
moins fin.
Ah, c'est peut-être un peu moins ambitieux. Hein, plus petit aussi. C'est une assiette. Avant, c'était un... Alors, vous ne pouvez pas le savoir du fait de la taille du fil. Imaginez, mais... Ouais. Une date, un lieu.
C'est comme les autres.
17-18. 17-18. Voire début 19.
Il est composé différemment parce qu'il y a ces sortes de réserves blanches
ouais.
sur l'aile.
Ouais.
Il est très différent de composition.
Ouais. Disons que c'est la même idée, mais pas la même composition. La même idée rayonnante, répétitive, c'est ça que vous voulez dire? Mais une composition, c'est un peu comme si on variait sur un thème, c'est-à-dire toujours le même genre d'idée, répétition des nombres quins, caractère rayonnant avec un truc central, mais à chaque fois des compositions différentes.
Oui.
Non?
Oui, et sur l'aile, on a l'impression que les décors bleus sont sur des sortes de nuages.
Oui.
C'est pas très différent.
Ouais. Ouais. Ces petits animaux, là, vous y voyez quoi?
Oui, ça ressemble à quoi?
Oui,
bah,
j'en
sais rien.
C'est
une queue bizarre, une tête de chien, mais ça oui. se termine en...
En queue de poisson.
Non, en queue de d'escargot. Quand on, oui. quand on sort l'escargot oui, oui. de sa coquille, ça fait...
Quand on mange,
très dans ta mémoire.
C'est du vécu.
Ça donne l'impression de motifs. Qu'on a différents motifs qu'on a assemblés.
Oui. Oui, oui. Effectivement, ce petit animal avec une queue en tire-bouchon est un peu étrange. Hein. Ouais. Finalement, c'est effectivement un peu comme un patchwork cohérent au bout du compte, mais d'éléments qu'on a comme ça mis ensemble.
Oui, oui.
Bien. OK. Allez, quelques photos encore. Je ne sais plus combien il en reste. Oui, il en reste encore peut-être 3 ou 4.
Une aiguère.
Une aiguère.
Peut-être.
Oui.
Ça n'a pas un grand bec, l'aiguillère.
Pardon.
L'aiguillère, ça a plutôt une forme plus évasée
d'un bec. Oui, ça dépend des cas. On peut là parler d'une aiguillère.
Zoomorphe.
Zoomorphe, oui.
Avec encore un blason à gauche.
Oui.
Compliqué. On voit pas bien.
Oui, on ne voit pas trop. Hein.
Oui, bah, y a
en fait, ce sont des initiales enlacées.
Une bizarre couronne.
Ouais.
Avec des
oui. Oui, 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 très curieux. Je ne sais pas à quoi ça correspond.
Des plumes d'Indien.
En tout cas, ça a l'air d'être une commande.
Il y a pas un petit chinois à droite.
Si, oui. si, c'est chinois. Aussi.
C'est chinois.
Oui.
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 Oui. Oui. Oui.
Des chinois.
Il y a des chapeaux. Oui.
Donc ça vous rappelle des choses qu'on a déjà vues.
Et une tête de galine assez.
Pas tout à fait la base, mais elle est en relief, vraiment.
Oui. Ici, une espèce de gaudron.
Des parties gaudronnées en relief.
Oui. Ouais.
En haut aussi, d'ailleurs.
Oui.
Oui,
puis il y a des apports, là, pour les joues de la tête du galinacé, là, qui ont été rapportées. Ça,
avec oui, les deux espèces de petites choses qui peuvent durer.
Ouais.
Il est fait en plusieurs morceaux, ce pot.
Ben forcément, d'abord il y a le couvercle. Hein.
Oui.
Il y a l'anse, bien sûr.
Il est tourné avec des rajouts.
Il est tourné avec des rajouts, forcément.
C'est peut-être bavarois.
Ça fait penser à quelque chose de bavarois. Il doit y avoir des parties moulées, d'ailleurs. Hein.
Oui,
parce que je vois pas comment on peut faire ça et ça. C'est donc une pièce un peu costaud quand même. Hein, c'est pas un truc moulé, enfin tourné puis c'est réglé quoi. Difficile quand même. Hein. Bon, c'est une commande qui doit être un peu prestigieuse. Hein.
C'est en poulet.
Bon, une date, vaguement, 17-18, vous avez
dit. Non,
non, non, non, non.
18-19.
Allez, on va regarder le suivant.
Cache-pot.
Cache-pot, pas énorme.
Oui, c'est
un cache-pot. Ça peut...
Oui, ou un rafraîchissoir.
C'est plutôt un rafraîchissoir. C'est plutôt un rafraîchissoir à bouteille, pour une bouteille.
Les anses sont petites.
Oui, des petites anses.
Ça,
ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure hein, au niveau des assiettes avec les motifs là où on voyait du musique avec du violet puis on voyait du marron.
C'est très coloré.
Ouais, ouais. Ça ressemble.
Mmh. Mais c'était plus fin.
Ah oui, vous pensez au motif de ces espèces de résilles là.
Oui, c'est ça. Oui.
Ça vous fait penser ce qu'il y avait dans le fond, oui. Des petits poutis qui étaient, qui se détachaient sur un fond marronasse, brillant.
En rotin, ça ne
va pas. Ouais.
En tout cas, le décor fait penser à celui où il y avait les cornes d'abondance.
Ouais.
Ah, ça fait penser aux cornes d'abondance et
les fleurs.
Les fleurs.
Les couleurs.
Les couleurs.
C'est très très coloré.
Très coloré, ouais.
Ouais, donc c'est pas du moustier.
Non, non.
Ça, c'est pas du moustier.
Ouais. Donc pas moustier, ça. Vous
ça
disiez.
Peut être coloré. Ça peut être coloré.
Ouais, mais
la fontaine, elle est du motif.
C'est un peu compliqué pour du moustier.
T'as voir, on va simplifier tout ça tout à l'heure. Enfin, je crois.
C'est alsacien.
Chinoise. Encore des Chinois.
Encore des Chinois, oui. Ouais. C'est un décor que vous qualifieriez comment?
Sur toute la surface.
Léger, oui, effectivement, allusif comme ça.
Et c'est une faïence ou alors
dispersée.
Ou une porcelaine.
Ça brille, hein.
Pas transparente, enfin.
En fait, c'est une faïence.
Faïence, oui.
Mais vous avez raison, il y a toujours cette ambiguïté avec la porcelaine. Ouais. Qui vient de quelle raison, d'ailleurs?
La brillance.
La terre.
Oui, oui.
On souhaitait faire des porcelaines.
Ben voilà, c'est-à-dire qu'il y a la volonté aussi de faire croire que ça, qu'on n'est pas loin de la porcelaine. Hein.
Oui.
C'est-à-dire de quoi?
Mais on parlait de porcelaine tendre.
La finesse.
Oui, on parlait de porcelaine tendre. Pour certains types de porcelaine. Oui, par exemple, là on sent, même si c'est un assez grand plat, hein, on sent que c'est pas très épais, si vous voulez.
Ouais, hein.
Bon, donc il y a déjà ça. Et pourquoi on essaie d'imiter la porcelaine?
C'est plus solide.
Oui, la faïence est plus jolie que la porcelaine. La porcelaine est plus jolie que la faïence.
Ah, oui.
Ça dépend des cas. Hein.
Oui, c'était plus rare.
Alors,
ça venait de Chine, c'était rare,
oui.
Et cher.
Et donc l'idée est d'imiter quelque chose qui est rare et cher.
Ben, ouais.
Voilà. Donc en faisant des faïences qui sont proches des porcelaines, même si on voit quand même d'emblée que ce n'est pas une porcelaine, c'est qu'une manière de se rapprocher au maximum d'objets luxueux qu'on fait venir de très loin. Hein, et qu'on n'aurait pas toujours la possibilité d'acquérir. Donc, il y a quelque chose qui a pour but de se rapprocher au maximum d'objets convoités. Donc, c'est peint comment? Avec quelle couleur? Bleu. Et puis
Le
manganèse. Et le manganèse, hein, dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec effectivement un décor de Chinois. Bon, la Chine, toujours. C'est demain, on en aura vu des Chinois.
C'est aquarellé.
Hein. Oui, c'est très léger, effectivement. Hein.
Un buste.
Un buste de qui, de quoi?
De femme.
De femme. Ouais. Et c'est qui? C'est
la première Marianne.
Ah, une première Marianne. C'est un peu ça. Hein.
Il fait son ménage.
Flore,
parce qu'elle a une couleur de fleurs. Oui. Flore qui évoquerait quoi alors? Qui évoquerait la flore, mais autre chose aussi?
La nature.
La nature. Pardon?
Le printemps.
Le printemps. Ça voudrait dire quoi d'ailleurs si c'est la représentation de flore et du printemps?
Les quatre saisons.
Ah, peut-être que c'était un élément de quatre saisons. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement le reste. Okay.
Et le vêtement est rempli de fleurs.
Oui, le vêtement est un vêtement floral, totalement floral.
Ça fait penser à la flore.
Et la base, alors le socle est très différent.
Oui.
Oui, mais le pied, on retrouve le bleu de tout à l'heure.
De tout à l'heure, c'est-à-dire quand?
Exactement.
Un petit peu de 10 minutes.
Non, c'est là où il y a
telle lumière au diapositive.
On voit toutes les scènes mythologiques. Il y a ces bleus, parce qu'on retrouve le bleu, le jaune, là, dans le...
Ah, vous retrouvez les couleurs, par exemple, de la, de la pièce avec le centaure, etc.
Oui, oui.
D'accord. Alors, vous mettriez ça quand, ça va?
19e.
19.
C'est plus près.
Plus près. Et le pied, donc un montage, un petit montage.
Un assemblage.
Un assemblage.
Ah, nous revoyons encore avec...
Donc ça, c'est un décor unique.
Ah ouais, décor unique,
mythologique.
Alors,
c'est
vraiment fait pour être mis au mur.
Ah, ça, c'est... Oui. Ouais. C'est pas le genre de choses où on prenait sa bouillie le matin. C'est très bien.
On a encore un satyre.
On a encore un satyre à gauche, oui. Et
une espèce de monstre marin aussi.
Oui.
Juste au-dessus.
Là.
Non, au-dessus.
Là.
Oui.
Ouais.
Et puis à droite aussi, en bas.
Il y a un lion de mer.
Là.
Oui, il est assis sur un...
Oui. Et puis il y a effectivement deux espèces de lions de mer, là.
Voilà.
OK.
Des angelots.
Bon, une scène mythologique, hein. Oui. Ouais, très bien. Là aussi, ça vous rappelle... Je suis désolé, je pose toujours les mêmes questions. Hein. Mais à mon âge, on radote, vous savez. Pas mon vouloir. Oui, c'est... Ça nous rappelle quoi? De quoi vous rapprocheriez ça?
De rien.
De rien.
C'est pas le même bleu.
Qui était aussi sur le thème du naïade, avec oui. Cette façon d'avoir le tissu au-dessus.
Oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui. Ouais, même genre de répertoire.
Oui.
Hein. Ok. Là aussi, on est presque à la fin. Hein. Une idée de date, de lieu. Pardon, italien. Italie. Bon. Allez, encore deux. Celle-ci, une autre, et je crois que c'est bon. On va pouvoir corriger les copies. Il va y avoir un peu de rouge, je crois.
Ah bon?
C'est plus à la mode de corriger
en rouge. Ah, je suis dans l'ancienne mode, c'est pour ça. Alors, encore une affaire chinoise. Oui.
Mais
le tour est
très... Mais
là, ça, encore des...
Insectes.
Oui, oui.
Les insectes, les couleurs,
ouais.
Et là, c'est une salle de bataille.
Des guerriers, une salle de bataille.
Oui.
Okay.
Ce qui est drôle, c'est que ça s'inspire de l'histoire chinoise. Enfin,
bah oui, on a l'impression que ça s'inspire de l'histoire chinoise. Oui,
oui. C'est bizarre.
Oui.
C'est le rang de marche.
Décidément, oui, on dirait. Décidément, on a cette volonté de coller au modèle. Hein.
C'est pour ça que je pense que à ces boutiques, je verrais plutôt l'Est. Enfin,
l'Est.
Voilà, les côtés germaniques.
Strasbourg, des choses comme ça.
Je sais pas, parce que là, on dirait que c'est la Gengis Khan là, qui arrive avec pour attaquer. Donc, quand je dis l'Est, ça peut être aussi la République tchèque.
Ah, d'accord.
L'Autriche.
L'Europe centrale.
L'Europe centrale, quand les hordes arrivent.
Mythe de l'Europe, quoi.
Ouais, oui.
Territoires qui ont été en contact avec.
Avec eux.
D'accord. Bon, bon, bon. Allez, un petit dernier.
Ah, mais ça ressemble à ce qu'on a vu.
Ça ressemble à un ciel bleu, là.
Oui,
oui parce qu'il y a même les mêmes arbres.
Les mêmes arbres, les dégoulines.
Plus japonais.
Ah, plus japonais. Qu'est-ce qui vous fait parler du Japon?
La
dissymétrie. L'arbre, oui. L'arbre, oui. Donc une touche de japonisme.
Oui.
Ouais. Ok. Mais qui nous rappelle globalement quand même des choses qu'on a déjà.
Oui, voilà. Oui.
Bien.
Ouais.
Bien. Je pense qu'il est temps.
Il y a du travail.
Il
y a un peu de boulot. Alors.
Ce qui montre qu'on a besoin d'apprendre.
Voilà.
Pardon.
Soif d'apprendre.
Mais absolument. Alors, à vrai dire, bon, je dois dire que j'ai souhaité faire cette séance en vous parlant uniquement de deux fabriques. En fait, tout ce que nous avons vu vient uniquement de deux centres. Alors je vous ai laissé divaguer dans l'Europe entière, alors que paf, à vrai dire, ça vient de deux lieux seulement, mais qui sont deux poids lourds de la faïence et en France et au 16, 17, 18, voire début du 19e siècle. Et ces deux centres, c'est lesquels?
Nevers.
Nevers.
Les deux alliés, c'est Nevers.
Voilà. Ouais, les deux alliés, c'est Nevers. Ça, c'est clair. Mais effectivement, Nevers et Rouen sont deux des poids lourds de la céramique en France du 16e au début du 19e. Les productions sont colossales, considérables, exportées largement en France, bien sûr, mais voire à l'extérieur. Les thèmes vont souvent se répéter beaucoup sur des périodes très longues. Bref, ce sont deux grands poids lourds. Et j'allais dire, pour organiser un peu nos yeux face à la céramique, c'est important d'avoir, je crois, en tête, dans l'œil, un œil qui regarde Rouen, un autre qui regarde Nevers. Une fois qu'on a ça déjà en tête, on peut commencer à trier le reste, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois Nevers et Rouen évacués, j'allais dire, on peut considérer les autres choses comme étant plus du Rouen ou de Nevers. Bien. Rouen et Nevers, c'est vraiment deux poids lourds de la faïence européenne et française. Alors là, je vous ai mis un peu les choses dans l'ordre en mettant Nevers d'abord et Rouen après. Nevers, il y a d'abord ça, qui est en fait ce qu'on appelle un vase calebasse. D'ailleurs, vase, vous aviez utilisé le mot tout à l'heure. On l'appelle calebasse, que vous savez, ça rappelle les calebasses. D'où son nom. C'est évidemment un des grands mythologies, vous l'aviez bien vu. Ça a été fait à Nevers. Et dans la première moitié du XVIIe, vous aviez assez justement parlé tout à l'heure d'une influence italienne.
Oui.
Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois dernière, on avait vu comment Nevers avait eu une période italianisante. Oui. Tout simplement parce que, en gros, à la fin du XVIe siècle, sont dus s'implanter à Nevers, fin XVIe, début XVIIe, des artisans italiens qui se sont posés là et qui ont travaillé et qui ont finalement amené leur savoir-faire. Donc ce qu'on a là, avec ce rapport des couleurs, hein, un bleu très profond, des couleurs assez pétantes, si vous voulez, hein, ça c'est quelque chose qui effectivement rappelle les majoliques. Rappelez-vous de ce qu'on a vu la dernière fois. Hein, ça rappelle vraiment les majoliques. Donc on a là quelque chose qui est très très proche de la céramique italienne, parce que Nevers, au départ, si vous voulez, dès la fin du XVIe et encore largement au XVIIe, travaille dans espèce de lignée de l'Italie. C'est à Nevers aussi que l'on doit ça, hein, c'est-à-dire ces carreaux qui effectivement rappellent des décors ottomans, parce que les influences, il y a des influences nombreuses, alors une influence italienne très forte, hein, bien sûr, hein, mais d'autres influences, on aura peut-être plus tard l'occasion d'en reparler, mais effectivement, en Orient, et singulièrement au Proche-Orient, la tradition céramique est importante. Hein. Et là, vous avez évidemment des personnages ottomans, qui d'ailleurs sont peut-être repris là aussi d'après des gravures, hein, qui ont été recopiées dans ces éléments-là, qui peuvent être des éléments de mur, mais aussi de sol. Hein. On ne daignait pas de marcher sur des sols faits comme ça. Hein. Donc là, on est aussi assez tôt, vous le voyez, à Nevers. Nevers qui, les céramiques de Nevers, dans la première moitié du XVIIe, voire fin 16e, les premières moitiés du 7e, sont des céramiques avec des couleurs comme ça assez fortes. Hein. Évidemment, c'est un côté très du sud, très italien, etc., parce que ce sont souvent des gens qui viennent du sud de l'Italie qui les font. Hein. Donc, voilà, la céramique nivernaise au départ est très marquée par ça. Alors, pas étonnant que ça ait été fait aussi à Nevers. Hein. Voilà, ça on dirait une majolique, bah, parce que finalement. On peut qualifier les premières productions de Nevers dans la première moitié du XVIIe de majolique quelque part. Hein. C'est vraiment la même idée. Alors vous avez raison, c'était une scène mythologique, sans doute le triomphe de Galatée, parce que ça a été repris seulement d'après une gravure qui représente le triomphe de Galatée. Autrement, vous voyez, l'idée c'est de faire une scène mythologique un peu générique. Hein. On met un petit par là, un triton par-ci, un petit dauphin, puis il vogue la galère. Quoi, hein. Le but, c'est pas de faire une sorte de dictionnaire mythologique savant, c'est de mettre des figures mythologiques qui feront l'affaire. Hein. C'est très souvent ça. En tout cas, on retrouve là une espèce de vigueur des couleurs qu'on trouve aussi dans une pièce comme celle-là, très typique de Nevers. Effectivement, vous retrouvez le bleu. Alors, le bleu est plus ou moins bleu. Hein. Dans la pièce précédente, c'était un bleu plus tempéré. Mais c'est le bleu qu'on a dans le vase, quelle base, du départ, hein, vous l'avez trouvé. Et on a parlé de l'arrivée d'Europe, etc. c'est aussi à Nevers qu'il faut placer cette chose vraiment extravagante, hein, cet objet vraiment bizarre. Par parenthèse, vous retrouvez, de manière un peu plus tranquille, mais quand même, hein, les bleus, par exemple, dans ce qu'on a vu précédemment, et cette volonté mythologique que l'on retrouve beaucoup, et qui est une volonté mythologique, alors dans les grands d'Europe, on voit bien qu'ils sont les grands d'Europe, mais les figures voyables, vous allez dire, oh, c'est plus ou moins bachique, vous avez raison, c'est plus ou moins bachique. On voit une femme assise, des petits poutis avec des pampres, etc. C'est, voilà, c'est mythologique. L'idée n'est pas forcément de représenter une scène précise, mais de représenter une affaire mythologique vaguement bachisante, et ça fera l'affaire. C'est un peu l'idée. Et puis l'idée, c'est de donner une surenchère décorative qui est très typique de l'époque de Louis XIV. Hein. On peut imaginer ça avec, vous savez, cette vaisselle en argent que Louis XIV avait fait pour Versailles, qui a été fondue plus tard. Mais voilà, il y a un côté comme ça, surenchère, parfois très bizarre, avec ces grosses patounes là en dessous, qui ont vraiment un côté très curieux. On est devant quelque chose d'un peu exubérant, mais très typique de l'époque. On a d'autres pièces à l'époque. Alors ça, je ne vous ai pas montré, mais faites également à Nevers à cette époque. Vous voyez ces deux aiguillères, incroyablement exubérantes aussi. Vous voyez, on en rajoute, quoi. Il faut que ça, ça y aille, quoi. Hein, voilà. Donc, des pièces étonnantes au niveau de la réalisation, hein, où vous retrouvez toujours ces bleus profonds et ce côté très néo-majolique italienne. Hein, ça vient vraiment de là. Hein. On trouve ça également là, dans une gourde. C'est une gourde, qu'on peut d'ailleurs appeler gourde-bouteille, parce qu'il n'y a que deux passants, il n'y en a pas deux en bas. Mais voilà. Et alors là, c'est un peu l'équivalent de ce qu'il y a avant, mais pour les pauvres, si vous voulez. Hein. Ça, c'est beaucoup moins cher que les deux aiguillères que je vous ai montrées précédemment. Puis c'est moins, extravagant, quoi. Hein. Et effectivement, vous avez un décor bachique qui représente Silène ivre. Vous voyez le gros Silène, hein, avec son gros bide, hein, qui est sur un vanbouc, qui a des drôles de cornes, mais enfin, et qui est soutenu par deux satyres, parce que de toute façon, s'il ne le soutenait pas, il tomberait. Hein. Donc, toujours ces scènes, un peu, et vous reconnaissez le bleu et le côté très majolique. Vous avez vu comment toutes ces pièces sont cohérentes les unes par rapport aux autres, hein, hein, vous remarquez, on est vraiment dans la même généalogie, si j'ose dire. Et puis, il y a une production à Nevers extrêmement singulière, c'est celle-là. Ce que vous voyez là, c'est Nevers. Alors ça, c'est des pièces assez rares, il y en a, mais c'est assez rare. C'est une production nivernaise de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Évidemment, ça fait beaucoup penser à de la céramique allemande, en tout cas germanique. Hein. Vous parliez de Schoppe de Bière, c'est moi d'ailleurs, de Schoppe de Bière tout à l'heure. Hein. Ça fait penser à ça. Ben non, c'est le verre. Ce sont des pièces qui sont inspirées de céramique moyen-orientale et persane. Hein. Notamment ce bleu profond. Et quelque chose que l'on retrouve dans certaines pièces moyen-orientales, et c'est de là que ça vient. La Chine, c'est la grande inspiration de la céramique européenne, hein, mais enfin d'autres domaines aussi. On a pu parler tout à l'heure de l'Empire ottoman, là, on peut parler de céramique du centre de l'Asie. Et puis effectivement, après cette espèce de vague des majoliques nivernaises, disons ça comme cela, hein, dont on vient de voir plein d'exemples plus ou moins extravagants, Nevers va ensuite s'installer vers la fin du XVIIe dans des productions dont vous voyez là un très bel exemple. Hein, il y a des productions avec des bleus, très souvent, et ce genre de scènes chinoises déclinées à l'infini, et qui, j'allais dire, ne,